On va continuer donc avec la vie de Luther. Donc notre bonhomme Martin, il est là. Et comme j'ai expliqué hier, au temps de Luther, il y avait un pape. Notre fameux Léon X, avec son éléphant. Et donc, honnêtement, c'était pas rien que Léon X possédait un éléphant. C'était une manière visible et quotidienne qu'il manifestait son amour de l'argent. Et donc, même si, bon, c'était un cadeau du roi de Portugal, mais le roi de Portugal comprenait, notre pape, il aime son argent, il aime un peu sa vie, et donc Léon X, il vivait vraiment ses passions comme ça. Léon X, il a même dit que maintenant que je suis pape, il faut que je profite. Et il a bien profité, hein, parce qu'il y avait quelques sous là dans sa possession. C'est lui donc qui a commencé la construction de la basilique Saint-Pierre. Encore, il y a en gros deux façons de voir certaines églises et certains monuments faits par l'Église catholique. D'une manière, il y avait un intérêt pour rendre gloire à Dieu. Donc on fait un gros bâtiment, on fait quelque chose d'exceptionnel, et ça manifeste notre engagement au Seigneur. Mais c'était pas du tout le principe de Léon X. Lui, c'était encore pour manifester « je suis le pape ». Et donc, je suis le plus riche, le plus fort, le plus beau. Et voilà, pour me glorifier, j'ai fait des édifices qui manifestent ma position. Et aussi, donc, il y avait des fêtes. Bon, donc, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui se passe là. Mais Léon X, il savait comment faire la fête. Parce qu'en fait, encore, il vivait sans cesse la richesse qu'il a accueillie avec sa position de pape. Donc, pour avoir toutes ces choses, il a fallu de l'argent. Et donc, il y avait une idée qui existait déjà dans l'Église catholique, qui était plutôt une idée spirituelle, une fausse doctrine, mais quand même quelque chose qui était plutôt pour le bien des autres. Et lui, il a profité à fond de ces choses, et c'est les indulgences. Et donc, il y avait une phrase qui était dite. « Sitôt qui sonne votre obol, je prononce, mais ça fait 13 millions de fois maintenant que je mal prononce obol. Je ne sais pas, j'ai envie de dire obol et bon, voilà, obol. Du feu brûlant, l'âme s'envole. Alors ça veut dire quoi? À peine l'argent a-t-il résonné dans votre tronc que, merci, je vois de tout là, est délivré du purgatoire et s'envole vers le ciel. Donc, les indulgences, c'était simplement l'argent donné pour aider papy, mamie, tata, tonton, même un ami. Hein. Peut-être pas nos ennemis, mais papy, il a fait quand même pas mal de bêtises pendant sa jeunesse et sa vie d'adulte. Et même quand il était papy, il n'était pas parfait. Il n'a pas accès au ciel tout de suite, donc il faut qu'il passe un petit moment au purgatoire. Mais nous, on est tellement bien et on a tellement aimé papy, on peut acheter, on peut racheter même quelques années. Et donc, le vendeur par excellence en Allemagne, c'était Johann Tetzel. Donc, il est devenu un ennemi de Luther. Mais Tetzel, c'était vraiment un homme d'affaires. Il vendait des indulgences comme on n'a jamais vu. Et donc, Tetzel arrive dans une ville avec un document signé par le pape. Si vous donnez... Bon, je vais parler en euros, hein, mais vous donnez 100 euros, ah ben ça a enlevé 10 ans de papy, hein, de sa peine au purgatoire. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas compris jusque j'ai commencé vraiment à étudier ce moment de l'histoire. On ne parle pas de 5 ou 10 ans au purgatoire, on parle de 10 000 années. Parce que quand même, vous êtes vraiment imparfait, franchement. Ça se voit, hein. Vraiment, vous faites plein de bêtises. Hein. Et si vous croyez pas, si vous êtes parents, je demande vos parents, vos enfants. Hein. Et vos enfants vont dire la vérité. Ah non, mais papa, il est bien gentil, mais pas toujours. Et donc, on a tous fait plein de bêtises. Et donc, on mérite tous des dizaines de milliers d'années au purgatoire. Mais heureusement, Dieu, entre guillemets, a donné ce bon plan où, avec ce fameux document, on peut acheter des années, on peut payer, et le temps est réduit, et voilà, papy, mamie et d'autres passent moins de temps au purgatoire. Et donc, c'était vraiment un système qui marchait. Et Donc, il y avait un moment donné, donc juste un peu pour l'histoire. Et c'est pourquoi on va fêter, on a déjà fêté plutôt le 31 octobre 1517, ici à Wittenberg, dans une petite ville en Allemagne, sur cette porte-là, Martin Luther a affiché 95 thèses. Il est assez étonnant quand on parle avec les pasteurs, prêtres, d'autres personnes qui sont normalement censées sur ce fait, combien n'ont jamais lu les 95 thèses. Et j'avoue, hein, ça fait pas 30 ans que j'ai lu les thèses. Hein. Oui, il existe, un jour il faut que je les lise, mais quand on regarde vraiment dans les détails les 95 thèses, Luther, il luttait plutôt contre les indulgences, mais pas au fond. En 1517, il n'était pas encore complètement contre les indulgences, il était contre les abus. Et les abus, c'était simplement le fait de gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est quand même pour ça qu'on fait cette réforme, avec cette idée que Luther a découvert la foi en Jésus, mais il était poussé à cause de ses indulgences. Donc, pourquoi? Pourquoi on parle des indulgences? Et pourquoi c'est tellement essentiel en 1517? Parce qu'en fait, on vient de quitter le Moyen-Âge, avec la peste. Et donc, avec un moyen d'âge de 34-35 ans, la mort était présente et les maladies quotidiennement. Et donc, je vous montre carrément des tableaux de l'époque, hein, qui souvent montraient, manifestaient cette idée, la mort est à côté de moi. Hein. J'ai 30 ans, la vie est belle, je vois devant moi la possibilité de vivre très longuement, et demain je suis mort. Mais littéralement demain. Donc, il y avait autant les adultes. Une des raisons pour laquelle que le moyenne de vie était 34-35, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'enfants morts, mais énormément. Donc ça a beaucoup baissé la durée de vie. Donc à cette époque-là, il y avait aussi les personnes qui vivaient jusqu'à 60, 70, 80 ans. Hein. C'était pas du tout un inconnu, mais beaucoup de morts parmi les enfants. Et donc même les nouveau-nés, les bébés, c'est une époque horrible, où vous êtes constamment menacé par la mort. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que, gardez en tête, nous sommes tous catholiques. On n'a pas de choix. Et même l'idée du choix, c'est inimaginable. Il n'y a qu'une seule église. Et donc voilà, je perds mon enfant, je perds mon bébé, moi-même, je tombe malade à 30 ans et je suis mort dans 2 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Et donc, ça, c'est quelque chose qui était fait par les Allemands de l'époque, mais c'est un peu l'image de la vie. Donc, on est en train de vivre, la vie, elle est belle, on fait ceci, on fait cela. Et ben voilà, le jour de la mort. Donc, 3 possibilités. On est tellement bien, tellement pieux, tellement saint, que voilà, on monte tout de suite au ciel. Ou sinon, on descend tout de suite en enfer. Parce que on est méchant, mais extrêmement méchant. Ou sinon, une troisième possibilité, où on passe un moment de punition, de purgatoire, qui est simplement l'idée de payer sa peine. J'étais pas le pire, mais j'étais pas aussi saint pour aller au ciel, mais quand même, hein, quelquefois j'ai aidé les mamies à traverser la rue, hein, j'ai jamais tué un chat. Donc, ça va à peu près, sauf, j'étais loin d'être parfait. Et donc, il y avait cette idée de la purgatoire qui, pour certains, aujourd'hui, dans notre monde, ça reste toujours une actualité, une réalité. Mais il est carrément impossible de trouver ça dans la Bible. Mais quand même, bon, c'est enseigné. Mais à ce moment-là, ils étaient tous dans cette pensée. Donc, les indulgences donnaient une grande espérance pour la famille. Bon, pour moi, j'ai toujours le temps, hein, je peux toujours faire assez du bien pour aller au ciel, mais pour la famille qui n'était pas parfaite, là, certaines personnes, là, ça donne une espérance. Mais c'est pas inconnu, hein, de l'histoire. Ça, c'est Baal. Dans la Bible, l'Ancien Testament, sacrifice des enfants. Parce qu'il faut comprendre, hein, une mentalité de ce monde, selon Satan. Dieu ou les dieux se fâchent, ils sont furieux, parce qu'on n'est pas parfait. Et il faut toujours apaiser notre Dieu. Il y avait des sacrifices des enfants. À Rome, il y avait les vierges de Rome. Ces femmes mises à part. Pourquoi? Pour apaiser nos dieux. Dieu est en colère. Dieu se fâche. Et vous savez comment on sait que Dieu est en colère? T'as vu la tempête là hier? Dieu, il s'est fâché. On sait que Dieu, il est fâché. En Égypte, la même chose. Les dieux portaient chacun un nom unique, il y avait les aspects culturels, mais sans cesse, il y avait cette idée d'apaiser un ou des dieux. Ça continue, hein. Dans l'hindouisme, il faut apaiser nos dieux. Le bouddhisme, c'est pareil. Pourquoi certains vont là-bas, à la Mecque? Vous croyez que Allah, c'est un dieu d'amour, de compassion? Il ne faut pas rêver, hein. Et donc, il y a un principe depuis toujours dans l'histoire. La religion est l'activité qui vise à apaiser les dieux. Je ne cite pas la personne qui a dit ça parce que bon, c'est pas l'essentiel. Mais ce principe existe partout. Et d'ailleurs, souvent quand je fais une présentation un peu de ces idées-là, j'ai une image que je n'ai pas mis là. Edouard et moi, on va faire la pêche, hein. Mais il a son bateau et moi j'ai mon bateau. Et donc, on n'est pas ignorant, on est même très intelligent, n'est-ce pas? Donc, il fait son sacrifice à son Dieu et moi je fais mon sacrifice à mon Dieu. Et donc, lui, il va à l'ouest, la mer là-bas, et moi je vais à l'est. Et Edouard, je suis désolé, mais il n'y a que des tempêtes, tu attrapes deux poissons et tu perds la moitié de ton équipe. Et moi, je vais de l'autre côté, j'attrape 2000 poissons. En plus, après, je suis bien bronzé et je vends mes poissons et j'achète un nouveau chariot. Qui a apaisé son Dieu mieux que l'autre? Tant pis pour toi. Peut-être tu peux se convertir à mon Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en dehors de Dieu d'Israël et ensuite de Jésus-Christ, en gros, le monde entier a fonctionné dans cette façon-là. Et c'est la suite. Mon Dieu, il est très, très fâché, mais je vais gratter son dos. Et je gratte, et je gratte, et je gratte, et finalement, il dit, « Ah, oui, ça y est, c'est bon. Ok, je te donne quelques poissons. » Vous n'avez jamais entendu quelques idées comme ça dans notre milieu? Pas vos églises, mais dans le grand milieu évangélique? Costume cravate extrêmement chic, hein, mais et je le possède pas. Mais si vous donnez votre argent à cette église, Dieu va vous donner 10 fois plus. Amen. Et on dit quoi? C'est où ça dans la Bible? Chers amis, aujourd'hui ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Je gratte le dos de mon Dieu, et ben voilà, j'ai que des billets qui sortent de sa machine. Et c'est pas dans la Bible. Et c'est ça le gros problème qui a confronté Martin Luther. Si je paie pour les indulgences, je gratte le dos de mon Dieu, peut-être il va être gentil avec papy qui normalement doit souffrir 10 000 ans pour ses péchés. Peut-être il va couper ça en moitié. Et Luther a été confronté avec ça. Et le gros problème, c'est que nous ne voyons aucune idée comme ça dans la Bible. Par contre, ce qu'on voit, c'est sola gratia, la grâce seule. Donc, je vous invite à trouver dans vos Bibles Romains chapitre 5. Je vais essayer le mieux possible de vous présenter vraiment ce que ça veut dire dans la parole de Dieu, la grâce de Dieu. Et on commence là, Romains 5, à partir de verset 1. Qui dit tout simplement, étant donc justifié par la foi. Donc on est déjà là sur le sujet que j'ai touché tout à l'heure, là, la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je vais lire ça dans d'autres paroles pour que ça puisse être le plus clair possible. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on met sa foi en Jésus, Dieu, il fait une forme de déclaration. Il dit, vous, Vous êtes juste. Voilà comment on peut être parfait pour aller au ciel. Et on a la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin de verset 2, ça dit, ça fait partie de l'espérance de prendre part de la gloire de Dieu, d'être au ciel avec Dieu. Donc, on parle de notre salut. Et c'est merveilleux, c'est génial, c'est fantastique. On est déclaré innocent, on est sauvé, on est déclaré juste. La Bible dit même que toute la justice, tous les bienfaits de Jésus sont mis dans notre compte. Et là, on est en paix avec Dieu, on n'est plus l'ennemi de Dieu. On vit bien avec Dieu et on est sauvé. C'est notre langage qu'on dit ça. Mais la grâce, c'est comment ça se passe. La grâce, c'est l'élément clé pour qu'on puisse être justifié, pardonné par la foi en Jésus. Et avant qu'on touche la suite de ces versets, donc c'est à partir de verset 6, je vais vous donner un exemple, c'est une illustration de la grâce. C'est quelque chose que j'ai pensé souvent à la grâce, j'ai créé un peu cette idée. Ça touche les éléments qui sont vraiment essentiels dans la grâce. Donc, Edouard, je te prends, je suis désolé. Hein. C'est comme ça. Tu vois, Christian, je te donne un moment de calme. Edouard, il prend un choix dans sa vie, il voit que les enfants sont partis. Génial, merci. Mais non, il faut faire ça. À un moment donné, il faut quitter la maison. Mais j'ai mes deux filles qui sont là. Un jour, il faut partir. D'accord? On est... OK? Pas demain, mais... Pas dans 10 ans non plus. Donc. Et donc, Edouard et Sylvie, ils disent ensemble, bon, notre maison, c'est un peu trop grand, donc on va acheter une maison plus petite. Donc, mais tu cherches, mais comme fou, il faut vraiment la maison, le bon prix. Et là, tu trouves le modèle, mais c'est un rêve. Et Edouard, il achète sa maison. Il voit son voisin, le jour du déménagement, il voit son voisin. C'est un homme qui est handicapé, il est dans un fauteuil roulant. Et là, tu dis, peut-être même là, je peux témoigner. Je peux manifester la grâce de Dieu avec quelqu'un qui a moins de bénédiction, il a un peu plus de difficultés dans sa vie, donc je peux montrer Jésus à mon voisin. Donc tu quittes ta maison le premier jour après, une très belle nuit de sommeil, il n'y a pas de bruit des voisins, c'est exceptionnel, mais on voit le soleil à Bordeaux. J'arrête cette blague-là, c'est la faute de Charles Anderson, il m'a dit ça un jour. Et tu vas vers ta voiture, et le voisin, il est là. Ah, tu dis, mais merci Seigneur, c'est la réponse à la prière. Et Edouard, il regarde son voisin, il se penche un peu. Bonjour, comment allez-vous? Et le voisin, il regarde Edouard plein dans les yeux, il dit, t'es moche. Il tourne sa chaise et il part. Bon. Ouf, peut-être il a mal dormi. Ou il a confondu, il a pris le mauvais comprimé. Bon. Merci Seigneur, je vais manifester l'amour de Jésus. Le lendemain, il est là. Le moment même que tu quittes ta maison pour prendre ta voiture, bonjour, j'ai vu ta femme, elle est moche. C'est pas vrai, c'est une parabole comme... la parabole de sa mère, ou mais là, t'avales, d'accord, que Dieu te bénisse, et voilà, ils partent. Troisième jour, il dit, même chose, bonjour, j'ai vu ta fille, elle est moche. Quoi? Quatrième jour, j'ai vu ton gendre. Il est plus que moche. Franchement. Et jour après jour, il t'insulte. Il arrive à l'hôtel, il commence à pleuvoir. Et ça fait 2 mois, quotidiennement. Dimanche comme mercredi, il est là. Il t'insulte, mais il insulte ton chien et tout, hein. Il est là, mais il tombe des cordes et tu dis merci Seigneur, au moins il ne sera pas là. Parapluie dans la main. Hein. Il t'insulte. Ça dure 6 mois. Il dit, mais Seigneur, mais ça devient une vraie persécution. Et si jamais vous avez été embêté par les voisins, on rigole beaucoup moins, n'est-ce pas? Après 2-3 jours, on commence à prier. Seigneur, un feu? Oh non, 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 je peux sauver sa vie après, mais une tempête, une tornade qui enlève sa maison et pas la mienne, comme tu veux, Seigneur. Mais ça devient très, très pénible. Et là, on est mi-janvier, il fait 3 degrés avec la pluie et il est là. Et là, Ed, tu dis, mais Seigneur, j'en ai vraiment assez, hein, j'en peux plus. Et là, il arrive quelque chose ce jour-là. Pour des raisons qu'on ne comprend pas, sa chaise n'est pas tout à fait alignée là comme il est normalement, parce que normalement, il aime regarder plein dans les yeux pour t'insulter. Hein. Et là, il tourne sa chaise, et bon voilà, c'est mal placé, et il tombe dans la boue. Et là, alléluia. Oh, merci Seigneur, t'es trop grand. Et après, on fait quoi? On la ramasse, on prend dans les bras et on entre dans la maison et on dit, moi je vais te nettoyer. Mes amis, ça c'est la grâce. Chaque jour de votre vie avant Jésus, vous avez insulté Dieu avec vos mots, vos paroles, vos actes, tout. Romains chapitre 3, il n'y a aucun qui cherche Dieu, nous sommes tous pourris. Votre présence insultez Dieu à cause de votre nature pécheresse. Et un jour, quand vous étiez couvert de boue, de saleté, de péché, Dieu, il a dit, je vais te nettoyer. Je vais te sauver. Je vais te purifier. Ça, c'est la grâce. Nous, on n'a rien fait. Il y avait une conviction du Saint-Esprit, un appel de Dieu. Et on a répondu, mais on a répondu comment? Sauve-moi, purifie-moi, lave-moi, Seigneur. On était handicapés spirituellement. On ne pouvait rien faire. On était comme Luther, coupable à chaque coup. Et à ce moment-là, très précis, Dieu, il a dit, je vais te sauver. Ça, c'est la grâce. Quand on ne peut rien faire soi-même, on ne peut pas bouger, on ne peut pas marcher, on est esclave à nos péchés. Et Dieu dit, là, je vais te sauver. On a fait l'appel. On répond à cette conviction du Saint-Esprit. Et on dit, Dieu sauve-moi, et il le fait. Et ici, dans Romains chapitre 5, donc, à partir de verset 6, ça dit, en effet, alors que nous étions encore sans force. C'est très intéressant ce mot sans force. Il y a plusieurs fois dans la Bible que Dieu parle du fait qu'il va nous fortifier. Donc, à l'époque de Paul, le langage qu'il a écrit, les lettres, les mots qu'il a pris, on peut prendre un mot comme fortifier et on peut ajouter la lettre A. Et ça rend le mot négatif. Donc c'est quand on pense à cette idée, je suis fort, fort, fort en Jésus-Christ, comme on chante. Avec la lettre A, ça veut dire j'ai aucune force, j'ai aucune puissance. Donc, quand j'étais toujours sans force, aucune puissance. Christ est mort pour des impies, des pécheurs. C'est-à-dire au moment quand j'étais le plus sale possible. L'instant où je n'avais rien moi qui méritait le moindre d'attention de Dieu, Christ est mort pour moi. Deuxième chose, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Donc, ces principes-là. C'est possible, par exemple, lors d'une guerre, je vois mes soldats avec moi, je vois quelqu'un qui est vraiment pas mal, c'est mon ami. Peut-être, je peux être mis dans une condition où je vais donner ma vie pour cette personne-là. Par exemple, les cas qu'on voit dans les camps de concentration pendant certaines guerres, où une mère, elle a donné sa vie pour son enfant. Ou un père, il a dit, non, 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 prends-moi, ne prends pas ma famille. On voit que ça, ça peut arriver. Mais ici, ça dit verset 8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce qui est très intéressant quand il emploie ce mot péché-là, ce n'est pas le mot normalement employé dans le Nouveau Testament. C'est l'idée d'être dévoué au péché, non libéré du péché, d'être spécialement méchant. C'est l'idée, et en fait c'était, et je m'excuse si vous travaillez pour le fisc, c'est employé souvent pour les collecteurs d'impôts. Bon, et à l'époque, ils étaient vus comme ça. Hein. C'est l'idée qu'on n'a rien du bien en moi. Et à ce moment-là, la Bible dit que Christ est mort pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je méritais rien, quand je n'étais que plein de péchés, il n'y avait aucune espérance dans ma vie, Jésus a dit, et bon, j'invente un peu, hein, je comprends ce que je vais faire. Jésus dit, bon, voilà, moi je peux le faire. Hein. Donc, je ne crois pas qu'il y avait un moment comme ça au ciel. Hein. Mais quelque chose s'est passé, hein, parce que la Bible parle du fait qu'il y avait un choix fait au ciel, parce que Jésus a été prédestiné à faire ça. Il y avait quelque chose. On ne sait pas, hein, la Bible reste assez silente sur ce qui s'est passé, mais Jésus était choisi en même temps qu'il s'est proposé lui-même de prendre notre place. Je vais changer un peu cette idée-là. Je vais vous montrer quand même aussi une autre réalité qui, encore, il n'y a pas peut-être un seul verset qui parle de ce fait, mais c'est quand même une réalité. Il n'avait jamais, jamais un moment au ciel où Dieu, il se promène un peu, il regarde les êtres humains, il regarde toute l'histoire, et il dit, ah, là c'est Mark Nelson, et c'est moi si vous ne savez pas. Il sera vraiment un plus là, au ciel, d'avoir Mark, hein? Avec Marc, là, je peux vraiment bâtir mon royaume. Je vais appeler Marc. C'est vraiment quelqu'un du bien. Jamais. Dieu, le jour de mon salut, Dieu n'a pas dit, « Ah, j'ai gagné le loto !»« Il est maintenant mon enfant !» C'est impensable. Le jour de mon salut, Dieu, il a pu dire, et peut-être ça s'est fait au ciel, je ne sais pas, hein, mais peut-être il a dit, « Encore, j'ai sauvé un ennemi. » Parce que regardez, hein, verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis. Avez-vous jamais pensé à ce fait-là? Avant votre salut, votre condition, votre place, un peu votre badge là, ennemi de Dieu. Et quand Dieu a regardé son ennemi, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais sauver cette personne-là. En plus, quand Dieu a regardé la masse d'humanité, tous les êtres humains, qu'est-ce qu'elle a dit avec son fils unique, Jésus? Il a dit, je vais envoyer mon fils unique pour sauver ces personnes-là. Chers amis, cet enseignement, cette doctrine, cette pensée est essentielle aujourd'hui dans notre monde. Il y a franchement trop d'églises qui parlent du fait que Dieu, il a voulu prendre les êtres humains parce qu'on est ses amis, on est vraiment tellement bien aimés, on est presque adorables parfois. Et ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible dit « Dieu sauve ses ennemis ». Dieu sauve ceux qui sont sans force, Dieu sauve les impies, Dieu sauve les pécheurs, Dieu sauve les personnes qui ne méritent rien. Et chers amis, ça s'appelle la grâce de Dieu. Donc, quand Luther il lisait ces choses-là, il a compris la grâce et la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. On voit ça dans Romains 5, et voilà, donc quand il a parlé de la grâce seul, sola gratia, le salut s'obtient par la grâce et non par nos œuvres et nos efforts. Le salut est un don gratuit de Dieu. Et je suis tout à fait pour ça, mais on voit cette grâce va un pas de plus. Dieu sauve ses ennemis. Dieu sauve ceux qui sont complètement, entièrement contre lui. Et aujourd'hui, à mon avis, les personnes qui sont le plus concernées avec cette idée-là, ce principe-là, c'est nos enfants. Vraiment, c'est nos enfants. Et si vous êtes parents, il faut vraiment garder cette pensée dans votre tête. Vous vous souvenez, ce jour-là, avec le petit bébé, mais bon, et je fais comme ça, comme mes enfants pesaient 30 kilos à la naissance. Mais avec deux mains comme ça, ben voilà mon enfant. Il y avait un moment donné, ma femme et moi, on regardait n'importe chose à la télé, n'importe film. Et là, il parlait même de la naissance d'un enfant. On s'est mis à pleurer. Oh, oh, je me souviens, c'était tellement gentil. Et nos pauvres enfants qui étaient à côté. Ça va pas la tête, mais je suis là, hein, je suis merveilleuse, mais ce petit enfant-là possède toutes les possibilités de devenir meurtrier et tout. Ça. Parce que on est né ennemi de Dieu. Le problème que je vois aujourd'hui, c'est que on veut que nos enfants soient corrects. Et je suis pour cette idée-là. Pour être vraiment correct, il faut amener nos enfants au Seigneur. Et si nos enfants ne comprennent pas ce fait qu'ils sont les ennemis de Dieu, ben, ils vont être sauvés de quoi? Et donc, chers amis, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours idéal, mais soit vos enfants, ou un voisin, ou un collègue de travail, votre grand-père. Ces personnes-là ne peuvent être jamais sauvées s'ils ne comprennent pas qu'ils sont les ennemis de Dieu. Ils vont être sauvés de quoi? Et donc, déjà, personnellement, il faut comprendre ce principe. Si vous ne comprenez pas la grâce de Dieu, il est fortement probable que vous n'êtes pas chrétien. Mais si on veut être un bon témoin, si on veut vraiment prêcher l'évangile de Jésus, il faut montrer cette grâce qui est là pour les ennemis de Dieu. Il faut faire comprendre aux non-chrétiens qui sont perdus, qui sont les ennemis de Dieu, et c'est exactement à ce moment-là que Dieu a manifesté son amour et Christ est mort pour eux. Luther, à la fin de sa vie, c'est pas à la fin de sa vie, mais c'était la fin de sa vie non-chrétien. Donc c'est un peu son témoignage, il a écrit la suite. « Avec le désir ardent de comprendre la parole de Dieu, je me mis à étudier son épître aux Romains. Je notai que dans le premier chapitre, il établit que la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile, Romains 16, 17. Je détestais l'expression « la justice de Dieu », parce que selon ce que j'avais appris, je la considérais comme un attribut de Dieu saint qui le poussait à châtier le pécheur. En dépit de ma vie irréprochable de moine, ma conscience troublée me montrait que j'étais un pécheur devant Dieu. Ainsi, et c'est Martin Luther qui a dit la suite, ainsi je détestais un Dieu juste. C'est incroyable quand on pense que Luther parlait comme ça. Un Dieu juste qui châtiait les pécheurs. Ma conscience était inquiète et au plus profond de moi, mon âme se révoltait. Cependant, je revenais sans cesse au même verset parce que je voulais connaître ce qu'enseignait Paul. Finalement, après avoir médité ce point pendant des jours et des nuits, Dieu, en sa grâce infinie, me montra le verset « Le juste vivra par la foi ». Je vis alors que la justice de Dieu dans ce verset est la justice que l'homme pieux reçoit de Dieu par la foi comme un présent, un cadeau. Et c'est ça la grâce, de comprendre qu'on accepte le don gratuit de Dieu. Prions. Encore Seigneur, on te remercie pour ces instants, on te remercie Seigneur pour ta parole, pour ces vérités. Seigneur, il se peut qu'en ce moment, il y ait quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore justifié par la foi en Jésus. Donc, Seigneur, je prie que tu puisses montrer et manifester ta présence, Seigneur, et ses vérités à cette personne, ou ces personnes, Seigneur. On prie, Seigneur, que, aujourd'hui, que nous puissions tous dire, Seigneur, dans cette salle, que nous sommes sauvés uniquement par la foi, mais Seigneur, que nous sommes sauvés par ta grâce, par Jésus. Et donc, Seigneur, je prie que tu travailles dans nos cœurs, Seigneur. Je prie aussi que tu nous montres, Seigneur, ces instants dans la vie où nous puissions, Seigneur, témoigner, parler de toi. Je prie, Seigneur, qu'on soit fidèle à l'Évangile. Je prie, Seigneur, qu'on prêche uniquement ta parole. Et donc encore, Seigneur, on te remercie pour ton salut. On te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Et Seigneur, on te remercie pour toutes ces choses. Au nom, Seigneur Jésus. Amen.